Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barreau et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de Commerce et de Management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de la colle. Aujourd'hui, notre invité, Jean-Claude Bénard. Salut Jean-Claude.
Bonjour Pierre.
Alors avec Jean-Claude, on a une histoire, la longue histoire qui date, qui est antédiluvienne, parce qu'on a bossé ensemble dans les systèmes d'information et on a eu des belles aventures professionnelles ensemble. Et vous allez voir que aujourd'hui, je trouvais intéressant de partager avec vous l'histoire de Jean-Claude. Pour la petite histoire, on a cafouillé comme on pouvait sur cet enregistrement. On a essayé X plateformes. Là, on en est à enregistrer via nos téléphones portables. Espérons que ça donne quelque chose de sympa. Pourquoi ? Parce que les sujets qu'on va aborder sont pour moi importants et je pense que c'est aussi important de pouvoir échanger avec vous. Mais avant de passer à tout ça, Jean-Claude, est-ce que tu veux bien en quelques mots te présenter ?
Oui, alors j'ai 56 ans, je suis une carrière de commercial derrière moi d'une vingtaine d'années et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est le Parkinson depuis le 1er avril 2017. Voilà à peu près ce que je pourrais dire sur.
Alors, je te trouve bien modeste parce que pas sur Parkinson, hein, mais sur le reste, parce que tu fais partie des rares personnes qui sont capables de d'être sur des process de vente hyper complexes dans les très grands comptes avec des deals à plusieurs millions d'euros. T'as bossé chez Microsoft, t'as bossé chez HP, enfin voilà.
En fait j'ai fait plusieurs grosses sociétés comme effectivement Oracle, Microsoft, HP dans des rôles de commerciaux spécialisés sur l'aspect décisionnel ou spécialisés sur l'aspect base de données, sur des gros projets sur des secteurs comme la banque, finance, assurance, secteurs comme l'automobile le commerce en fait ça n'a pas été d'emblée, ça a été ma seconde alternative, parce qu'en fait tout s'est joué un jour de 1989 au poker et j'ai perdu pas mal de fric au départ.
Ah ouais, ah, je savais pas ça.
Et j'ai dû passer des techniques au commercial quasiment d'un mois sur l'autre pour renflouer les caisses. Voilà comment ça a commencé au départ.
Je savais pas. Incroyable.
Depuis j'ai arrêté de jouer au poker. Et donc, j'ai entamé une carrière de commercial effrénée, passionnée et passionnante. Et donc, comme tu l'as dit, effectivement, sur des comptes comme ceux qu'on a cités, voilà. Et puis, ça continue, en fait. Là, je suis aujourd'hui dans une grande société américaine qui s'appelle AMD. Je vends du cloud, je vends des instances cloud qui sont motorisées par AMD. Par opposition à ceux qui
AMD, sont c'est les Intel. C'est les processeurs, non, c'est ça,
c'est les processeurs, tout à fait. Nous sommes les concurrents d'Intel, donc en fait en gros chez Microsoft, AWS, Amazon et Google, il y a des instances cloud qui sont soit motorisées par Intel, soit motorisées par AMD.
Mmh.
Et donc, mon rôle, c'est de faire en sorte que les grandes sociétés françaises acquièrent des instances chez Google, Microsoft et Amazon, motorisées par AMD.
Je comprends. Voilà. Mais alors, tu vends à qui exactement ?
Alors, mon territoire va de Vladivostok à Johannesburg. Je vends aussi bien à Aramco qu'à France Télécom, qu'à Orange.
Ouais, on est vieux, nous, ça s'appelle encore France Télécom. C'était quasiment les PTT, ton affaire.
Exactement. Que la BBVA en Espagne. Donc, effectivement, ce sont des projets de transformation digitale de on-prem vers le cloud. En ce moment, c'est plutôt la tendance mainframe vers le cloud. On a aussi des projets de type HPC, donc High Performance Computing. Des projets de type, par exemple, chez les constructeurs automobiles, de type crash test, qui veulent rapatrier sur le cloud pour des raisons de ressources et de performance, parce qu'effectivement, des machines de ce type-là doivent quasiment se changer tous les 6 mois et ces budgets sont colossaux et le cloud a une raison là-dedans.
Juste pour moi et pour un peu de fun, un deal moyen, c'est combien?
Alors, par rapport au processeur, c'est très diffus. En fait, en gros, par exemple, pour un opérateur télécom, pour mettre en place un flux de jeux pour ses abonnés,
ouais,
c'est de l'ordre de 400 à 500 000 dollars par an.
D'accord.
De licence de uniquement l'infrastructure cloud.
Oui. Ah, c'est pas rien, hein.
Alors, ça s'équilibre généralement au bout de 2 ans. Ça se réfléchit entre les infrastructures on-prem, les infrastructures cloud. Ça s'équilibre en termes de coûts, en termes de...
Alors, on-premise, ça veut dire qu'on a les infrastructures chez soi, à la maison.
En les murs, tout à fait. Et donc,
dans le cloud, dans les nuages, ça veut dire que c'est dans un data center quelque part dans le monde.
Tout à fait, ce sont des ressources partagées qui sont effectivement mises à disposition des clients qui, à la demande, peuvent y accéder.
Et donc, on le voit, t'as tout un chemin de carrière professionnelle très international. D'ailleurs, t'as quasiment bossé que pour des boîtes américaines.
Oui, en effet, sauf une boîte italienne qui vend des logiciels d'élaboration budgétaire et de consolidation financière, qui était Board International, mais c'est une boîte italienne.
Donc, ok, il y a ça. On se connaît un peu. En tout cas, il y a un moment où on se fréquentait beaucoup. On faisait des deals ensemble. Et t'es un mec qui embrasse la vie, qui la mord à pleines dents. La preuve, le poker. Tu m'as jamais dit ça. Hein. Il a fallu qu'on attende qu'on soit des vieux schnocks pour que tu me balances ça. C'est quand même incroyable. Tu étais un motard patenté. C'est-à-dire que moi, dans ma fiche contact sur mon téléphone, il y a, je sais pas pourquoi, mais il y a un logo Harley Davidson à ton nom.
C'était ma passion pendant quelques années jusqu'à ce que effectivement je sois épuisé de cette marque par le fait que c'est un entretien plutôt coûteux et c'est une machine qui est très jolie, très belle, mais
Ouais, mais ça donne une idée du personnage, tu vois. C'est intéressant. Le sujet, je suis désolé, je cherche un peu de mes mots parce que j'essaye de faire attention à ce que je dis parce que je te l'ai dit avant. On va parler de la maladie de Parkinson, mais pour moi, c'était tout sauf réduit à ça. Donc, j'essaie vraiment de faire attention à ça. Maintenant, est-ce que tu veux bien finalement nous raconter comment ça s'est arrivé, comment ça a débarqué dans ta vie?
Alors, comme tu disais, j'étais toujours passionné par ce que je fais et passionné par la vie. J'ai un mot-clé en tête, c'est jouissance, en tout, dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans ce que j'ai envie de faire, dans mes relations. Je cherche toujours à avoir le meilleur de ce que je peux en tirer et en ayant une conscience du présent très importante. Et c'est ce qui m'a toujours sauvé dans les affaires, c'est que quand je parle à quelqu'un ou quand je m'investis, je m'investis toujours au présent.
Oui.
Et cette façon de voir me permet aujourd'hui de vivre dans mon entreprise, au sein de mon entreprise, comme je vivais avant Parkinson.
D'accord.
Parkinson n'a pas beaucoup d'influence, n'a pas eu d'influence dans ma vie, de par même cette attitude de passion et de volonté de vivre au présent.
Ok.
C'est-à-dire que je ne projette pas dans l'avenir. C'est-à-dire que les décisions que je les prends en fonction de ce que je comprends à un instant T et ce dont j'ai envie à l'instant T. Donc, ça permet effectivement d'aborder les différentes problématiques, que ce soit les problématiques de négociation ou les problématiques personnel, médical et autres, d'un point de vue qui m'extrait de cet environnement pathos ou de tout environnement, sentiment négatif. Voilà, enfin,
ouais, donc voilà.
C'est un peu un contexte. Et en fait, il n'y a pas eu, je me suis passé de, enfin, le 1er avril 2017, j'ai eu ce diagnostic de Parkinson. J'ai été effectivement, j'ai pas compris tout de suite ce qui m'arrivait, mais j'ai tout de suite été soulagé par le fait de savoir ce que j'avais, en fait.
Ah oui.
Précédemment, en fait, en gros, je m'endormais, au volant, j'avais un bras qui commençait à se raidir, et donc le fait d'avoir un diagnostic
sur ce qui t'arrivait,
sur ce qui m'arrivait, ben ça m'a soulagé d'une part, et d'autre part ça m'a donné envie de faire plus que ce que je faisais avant par rapport à des activités comme le parapente, la roue électrique, la moto.
Oui.
Ou même le business dans lequel j'étais.
Mais pour ceux, et moi le premier, qui ne sauraient pas on a tous entendu à un moment ou à un autre parler de la maladie de Parkinson. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, justement?
Bon, en fait, la maladie de Parkinson, les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, c'est la lenteur, c'est la raideur et c'est le tremblement au repos.
D'accord.
En fait, c'est une maladie neurodégénérative, donc en fait, ça touche. C'est une maladie qui est évolutive, qui touche essentiellement les fonctions motrices et les fonctions automatiques, enfin, déglutition, la marche, l'appréhension, voilà. Donc, c'est une maladie qui pour l'instant n'a pas de solution, n'a pas de médicament qui puisse quelque part cure, c'est ça ce que je cherchais comme mot. La facture, donc tous les médicaments aujourd'hui ont tendance à remplacer qui petit à petit fait défaut dans le cerveau, ça n'a pas besoin. Oui, en fait les médicaments aujourd'hui sont là pour remplacer la dopamine qui fait défaut dans le corps. La dopamine est un neurotransmetteur en fait en gros qui fait déficit, ce qui fait défaut dans le principe du Parkinson, c'est la transmission en fait des informations d'un neurone vers un autre.
D'accord.
Qui se fait à travers un messager qui s'appelle la dopamine. Et donc en fait les médicaments aujourd'hui qui sont dispensés pour le Parkinson sont de la dopamine pure et un médicament qui fait en sorte d'exciter en fait les récepteurs de dopamine de façon à ce que la dopamine, le peu de dopamine qui existe dans le corps puisse être efficace, peu importe.
Ça veut dire que tu te fais des shoots de dopamine?
Tout à fait. En
D'accord.
fait, c'est des shoots de dopamine à horaire constant dans la journée, de façon à ce que, de rebond en rebond, ben, on ait un taux de dopamine qui permette une activité normale.
D'accord.
Une élocution normale, une marche normale, des tremblements amoindris, etc., etc.
Ouais.
En fait, il y a donc différents stades dans la maladie de Parkinson, et au début, du diagnostic jusqu'à la lune de miel, c'est-à-dire du stade 1 jusqu'au stade 2, on a effectivement un comportement tout à fait normal, on n'a pas de stigmates qui soient visibles plus ou moins.
Ouais.
C'est à partir du stade 3 et 4 où on commence à avoir une intolérance à la dopamine qu'on dispense par voie orale.
D'accord.
Et on a des tremblements qui sont de plus en plus visibles, etc., etc., et puis jusqu'à ce que les médicaments ne fassent plus effet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne meurt pas de Parkinson, mais
ouais.
L'espérance de vie est quasiment identique aujourd'hui grâce aux médicaments avec ou sans Parkinson.
Ok.
Par contre, effectivement, le Parkinson est atteint de plus en plus de gens qui sont jeunes, en dessous de 50 ans. Donc, il y a à peu près 10% de gens qui ont Parkinson qui ont moins de 50 ans.
T'avais quel âge quand t'as été diagnostiqué?
J'ai donc 56 ans. J'avais donc 50 ans à peu près, 51 ans.
Oui.
Quand j'étais diagnostiqué. En fait, je pense que la maladie courait depuis déjà 2-3 ans bien facilement.
D'accord.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 200 000 personnes en France qui ont le Parkinson, 25 000 par an supplémentaires. Et comme je disais, donc il y a à peu près 10% de personnes qui ont le Parkinson en dessous des 50 ans. Donc voilà ce qui caractérise la maladie de Parkinson. En quelques mots, un peu long, mais quelques mots.
Excuse-moi. J'ai bien noté ton côté être dans le présent, etc. Quand même, quand on t'annonce ça, c'est quand même un truc qui tombe un peu sur le coin de la gaufre.
Alors, effectivement, on peut mettre le genou à terre, et c'est ce que j'ai fait parce que. Une fois que le diagnostic vous a été annoncé, tu comprends pas trop ce que veut dire le Parkinson, t'arrives chez toi, tu googles ça et tu trouves ce que c'est et tu te dis
wow.
je suis vraiment dans la merde.
Ouais.
Et donc deux solutions, soit on se jette par la fenêtre, soit on regarde autour de soi et puis on se dit dans une semaine j'ai un rendez-vous pour faire du parapente avec les potes et je vais pas louper ce rendez-vous quoi.
Ouais.
Parce que ça fait déjà 3 mois qu'on est sur ce plan de se passer une semaine avec les bains. Donc voilà, donc on se dit faut y aller, faut vivre.
Ouais.
Et donc la moralité de cette histoire, c'est que à l'annonce d'un diagnostic du Parkinson, la vie s'arrête pas.
Ouais.
La vie s'arrête pas et on n'est pas différent l'heure d'avant d'être rentré chez le d'être rentré en cabinet du médecin et l'heure d'après. En fait, c'est en cela que c'est important d'intellectualiser et de se remettre au présent. C'est que de toute façon, Parkinson ou pas Parkinson, on n'est jamais celui qu'on a été et on ne sait pas ce qu'on sera. Par contre, le présent est le seul moment où on est capable d'intervenir et d'agir avec les moyens dont on dispose à l'instant T. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de fantôme. On est dans le présent et cette attitude. D'ailleurs, c'est pas. Enfin, je suis un adepte de Eckhart Tolle,
oui.
Qui est un grand gourou du moment présent. Et cet aspect-là m'a sauvé parce que c'est toujours ce que j'ai pu. C'est avec cette attitude qu'on peut avancer, progresser et en même temps mener de front une activité personnelle, une activité professionnelle et puis gérer les aléas du Parkinson qui sont un cran de fatigue, qui sont de temps en temps une élocution qui part en vrille. Des transpirations en veux-tu en voilà, des tremblements dès qu'il fait un peu froid, on a l'impression d'être un shaker, oui. Une machine à laver en mode essorage. voilà.
Comment tu gères l'annonce à tes proches? Et puis derrière, parce que je sais que ça a été un sujet, l'annonce à ton employeur.
Alors, ma motivation première et les conséquences sont directement liées aux conséquences. Ma motivation est liée aux conséquences de la maladie de Parkinson, qui en fait un isole, parce qu'effectivement, quand on a le Parkinson, on a honte de le dire.
Ouais.
On a honte de le dire à ses proches, dans son milieu professionnel et à ses amis, parce qu'effectivement, c'est un handicap d'une part.
Ouais.
Et deuxièmement, les conséquences de la maladie, c'est qu'en fait, c'est un déséquilibre permanent entre le mental, le physique et le social. La conséquence immédiate du Parkinson, c'est qu'à un moment donné, t'as de la bave au coin de la lèvre, quoi. T'as du mal à te servir de la fourchette pour découper ta pizza. T'as des envies d'aller aux toilettes toutes les 2 secondes.
Mm-hmm.
Et ça, faut gérer. Donc, faut gérer vis-à-vis de dans son travail, faut gérer vis-à-vis de sa famille, faut gérer vis-à-vis de ses amis. Et donc ma motivation première de faire mon coming out il y a un mois de ça a été de dire que ça suffisait quoi. Ça faisait depuis 2017 que j'étais en sous-marin, que je cachais mon Parkinson, que j'allais déjeuner à part, parce qu'effectivement, c'est pas très joli de voir quelqu'un en face de soi qui mange et qui a une petite goutte de bave qui coule au moment de la prise de pizza. Enfin bref, c'est pas top.
Je comprends. Excuse-moi, je rigole, mais voilà. On se connaît suffisamment pour que je rigole.
En effet. Mais en fait on s'isole. Donc en fait ma motivation première était très forte parce qu'en fait je suis à 56 ans, j'ai encore quelques années à vivre devant moi par rapport à mes professionnels et à vivre encore je pense quelques années encore hein. Et assez c'est assez, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose parce que j'avais les moyens financier devant moi de pouvoir faire quelque chose au cas où il m'arrivait que mon employeur me vire ou qu'est-ce j'ai un solide.
Oui.
Donc j'avais ça aussi en tête et donc en fait par rapport à ma famille a su quasiment tout de suite que j'avais Parkinson. Enfin ma famille j'ai pas d'enfants, j'ai une compagne et à l'époque j'avais mes parents donc c'est assez limité mais professionnellement effectivement je me suis déclaré qu'il y a un mois de ça, à peu près. Ouais. Un mois et demi de ça. Et c'était donc motivé par ce que
j'ai dit. C'est pour ça qu'on a attendu pour faire ce podcast aussi. Hein.
En effet. Parce qu'effectivement, en regardant autour de moi, je me suis dit que j'étais peut-être pas le seul dans l'entreprise à avoir cette double peine de la maladie plus de devoir me taire et que c'était pas... Et que j'avais le privilège aujourd'hui d'être atteint de cette maladie de Parkinson et de pouvoir m'exprimer et de pouvoir agir parce que j'ai un job, parce que j'ai des moyens techniques, parce que j'ai des moyens physiques, de pouvoir faire, de pouvoir agir. Donc j'en profite. J'en profite pleinement. C'est-à-dire que j'ai effectivement mis en place une stratégie pour communiquer d'une part avec mon employeur, d'autre part avec mon réseau professionnel et puis avec le plus grand nombre.
Ouais, c'est-à-dire que t'es en train de devenir une star sur TikTok. Hein.
Bah écoute, une demi-star pour l'instant.
Mais non, mais j'arrête pas de te voir. Alors moi, je suis un fan de TikTok et j'arrête pas de te voir. Donc tu postes énormément en plus.
Je poste tous les jours une vidéo. En fait, voilà, j'ai cette stratégie. Je mets à profit tout ce que j'ai pu comprendre, savoir en termes de marketing, de commercial, au profit de la cause du Parkinson que je veux défendre.
D'accord.
Donc en fait, j'ai trois canaux de communication. Un vis-à-vis de mon employeur, un autre vis-à-vis de mon réseau social professionnel, et puis l'autre vis-à-vis de tout le monde, quoi. Et donc j'ai fait une vidéo par public. J'ai fait une vidéo pour l'entreprise, pour m'adresser à la RH, pour m'adresser à mon manager. Et j'y suis allé franco, quoi. J'ai appelé ma RH. Je lui ai demandé de se pencher sur une URL que j'avais préalablement préparée sur YouTube.
Ah, t'as fait ton coming out comme ça?
Tout à fait.
Waouh.
Et donc, parce qu'en fait, c'est très difficile de dire à quelqu'un ce que l'on veut lui dire sans avoir d'émotion, enfin, en tout cas pour moi. Ouais. En fait, je mets beaucoup de passion dans ce que je dis, ça s'entend d'ailleurs dans la communication qu'on a en ce moment. C'est-à-dire que je suis très sensible, je suis surtout la maladie de Parkinson, ça sensibilise encore plus.
D'accord.
Donc, je voulais pas bafouiller, je voulais pas être... Je vais pas faire je voulais que ce soit bien fait, donc j'ai préparé ça dans une vidéo et c'est passé comme une lettre à la poste. Surtout qu'en ce moment les entreprises sont très focalisées sur ce qui est inclusion et diversité.
Oui.
Donc c'est vraiment un thème qui est important dans les entreprises. Donc ça a alimenté en fait en gros ce sujet pour les ressources humaines.
Ouais, je comprends.
J'ai pris la même vidéo, je l'ai présentée à mon manager, ça s'est bien passé également, et donc voilà. Alors, je comprends bien que...
C'est à noter quand même, hein, parce que je suis pas persuadé que ça se passe comme ça dans toutes les situations. Hein.
Tout à fait, je pense que un garçon de café, s'il a le Parkinson et qu'il effectivement présente la même vidéo à son employeur, se fera virer, s'inédié, parce qu'effectivement, il n'a pas la capacité peut-être d'être dans un état de fatigue ou dans un état de tremblement pour réaliser son job. Mais je pense que dans une entreprise comme, je pense à SAP, je pense à Microsoft, je pense à des grandes entreprises américaines comme Google, Amazon et autres, entreprises qui ont plusieurs dizaines de milliers de personnes ont sans doute en leur sein des gens qui ont le Parkinson.
Statistiquement, ça doit tomber, oui.
Statistiquement, en fait, en gros, il faut compter 3 pour 1000.
D'accord.
C'est le ratio, en fait. Et 3 pour 1000, ce qui veut dire aussi que 3 pour 1000, c'est toute une famille qui est touchée, c'est un réseau qui est touché, enfin bref, c'est toute une vie qui est touchée.
Elle t'a dit, la RH, comment elle avait perçu ça, vécu ça?
Non, mais en fait, de la réaction que j'ai pu en avoir par la suite, c'est plutôt une approche bienveillante.
Mm-hmm.
En fait, je pense que ce qui est important, c'est que de bien comprendre soi-même que tant qu'on est apte à faire une tâche,
oui,
il n'y a pas de raison qu'une entreprise qui soit normalement constituée ne se garde pas.
Oui.
Voilà, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, la RH ne verra à aucun moment donné, je pense, raisonnablement, aucun inconvénient à ce que tu restes dans l'entreprise tant que tu réalises ta tâche, quoi, tant que tu réalises ce que tu as, pourquoi on t'a engagé. Et c'est pour ça que j'ai pas grand chose à craindre pour l'instant, parce qu'effectivement, je performe et il y a pas
job
de souci par rapport à ça. Mais je conçois bien que c'est un cas privilégié, parce que ça peut être aussi, comme je disais, pour un garçon de café, une autre paire de manches.
Ouais, on est complètement d'accord. Justement, donc, alors, c'est pas justement, c'est, T'as une aventure finalement sur les réseaux sociaux. Alors je te taquinais un peu en disant que t'es une star de TikTok, mais quand même, tu commences à développer une vraie audience. Ce qui est intéressant de ce que j'ai pu voir, c'est aussi que ça crée du dialogue avec des gens d'ailleurs que tu es arrivé à sensibiliser. Ça me semble intéressant, ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas forcément touchés par cette maladie, ou ni même pas chez leurs proches, mais voilà, ça crée quelque chose, non? Comment tu le ressens, ça, toi, aujourd'hui?
Alors, en fait, je suis arrivé à TikTok par rebond et par par raisonnement. En fait, il se trouve que quand on veut être public sur une cause personnelle, commerciale ou co-caisse, on a le choix entre des formats longs comme sur YouTube ou sur Facebook,
ouais, mmh,
ou des formats courts comme sur TikTok. La tendance aujourd'hui est vraisemblablement au format court, parce que c'est facile à produire et c'est facile à consommer.
C'est pour ça qu'on fait un podcast qui dure une heure.
En tout cas, le raisonnement que j'ai suivi est celui-là.
Mm-hmm.
Et donc, mon objectif avec le Parkinson, et comme pour tout ce que je fais dans la vie, c'est d'aller vite, rapidement. Et en fait, il se trouve que si jamais j'étais parti dans un format long, j'aurais dû prendre, commençais à prendre quelque chose comme une semaine pour produire une vidéo de 15 minutes ou 10 minutes, et ça représentait un travail colossal.
Oui.
Alors que là, en fait, avec TikTok, ça me prend à peu près, si je fais un travail préparatoire avant, ça me prend à peu près une heure et demie pour faire un truc de 10 minutes.
D'accord.
Donc, en fait, ce raisonnement m'a mené aujourd'hui donc à avoir une stratégie dirigée vers TikTok. Et quand on parle TikTok, il faut résumer ce qu'on a à dire en moins d'une minute avec des mots simples et un objectif par vidéo également simple à digérer.
Mmh.
Et il faut que ce soit à la fois informatif, sexy et utile. Parce que je garde en tête que mon objectif est de démystifier cette maladie du Parkinson, c'est-à-dire de faire comprendre en quoi consiste cette maladie et quelles sont les implications de cette maladie.
Oui.
Et que, ayant un Parkinson, on n'est pas encore mort.
Oui.
Mais c'est important de le dire.
Complètement.
Donc il faut s'exprimer sur le fait que il faut apporter des solutions, des trucs et astuces pour ceux qui ont Parkinson puissent comprendre, par exemple, comment pouvoir
découper une pizza, on en parlait tout à l'heure.
Tout à fait, découper une pizza, transformer une chemise avec des boutons pression.
Ouais.
Résoudre ce problème de à qui s'adresser pour aussi en cas de problème nutritionnel, comment on fait pour gérer ses émotions, etc. etc.
Oui, c'est donc, des trucs pratico-pratiques. Hein.
Exactement, parce que je suis pas médecin, donc effectivement, il ne faut pas non plus que j'embarque dans des... dans la postologie ou dans des médications que je maîtrise pas.
Absolument.
Donc en fait, ce que je peux maîtriser, c'est l'aspect mental, c'est l'aspect social, c'est l'aspect physique à travers des trucs et astuces, à travers des témoignages que je peux collecter, à travers des expériences que je peux que j'ai pu vivre ou que d'autres ont pu vivre. Et c'est important de voilà, c'est ça que j'ai choisi en fait, en gros, de communiquer de façon simple. Pour pouvoir à la fois apporter des trucs et astuces et des solutions pour ceux qui ont Parkinson, et aussi pour pouvoir éclairer les accompagnants ou la famille sur cette maladie. Et je prends un cas d'école. C'est un gosse qui m'a interpellé sur TikTok en me disant que son père a le Parkinson. Il a des fils qui dépassent de sa tête. Et je lui ai dit bon, ben, écoute, oui, effectivement, ton père a une stimulation cérébrale profonde, c'est une sorte de pacemaker, mais au niveau du cerveau, pour pouvoir à un stade déterminé du Parkinson, quand les médicaments font plus effet, ben, on met des électrodes dans le cerveau pour que le cerveau puisse produire et puisse réagir, etc. etc. Et je lui disais qu'il y a au moins une dizaine de personnes qui ont fait des performances sportives, grimper des montagnes, faire le Tour de France et autres, avec ce type de dispositif. Donc son père était tout à fait apte à être normal comme tout un chacun, avec ces fils qui dépassent, mais qu'il n'avait pas il pouvait compter sur son père pour faire ce qu'il pour faire pour être son père, quoi, je veux dire, pour être normal. Et donc c'est important de pouvoir à la fois éclairer les gens qui sont accompagnants autour du Parkinson, aussi bien que les gens qui ont le Parkinson.
Ouais, je comprends. Oui, ben parce que effectivement, c'est ce que tu disais, c'est il faut pas tomber dans l'isolement et au contraire, tu vis avec quoi. Et avec avec au sens large du terme, c'est-à-dire que tu vis avec la maladie, bien évidemment, mais surtout tu vis avec avec ton environnement autour.
Voilà, il faut faire avec. Il faut faire avec et c'est important de d'être soi-même et de ne pas être le Parkinson.
Ouais.
C'est fait partie d'un de mes sujets que j'ai traité récemment. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre, pour pouvoir vivre le Parkinson, il faut continuer à vivre. Il faut continuer à être soi-même avec les contraintes du Parkinson.
Oui.
Et le but de la manœuvre, c'est bien de continuer à être soi-même, de mieux se connaître et de vivre au présent. C'est trois composants qui sont essentiels, à mon sens, pour être au mieux, même avec le Parkinson ou sans Parkinson.
Ça t'a provoqué quoi, le fait de voir que justement que les gens sur ta communication réagissaient?
C'est poignant, parce qu'en fait, quand quelqu'un de trentaine d'années t'appelle pour dire que ça fait 5 ans qu'il a Parkinson et que c'est un tourneur fraiseur et qu'il a été viré de son boulot parce que il a eu Parkinson et que sa femme l'a quitté et que ça fait il a passé 7 mois dans sa voiture, etc. Donc il y a des témoignages qui sont poignants, des témoignages qui sont encourageants, parce qu'il y a des témoignages qui te disent c'est bien ce que tu fais comme communication et que je savais pas que qu'on pouvait faire ça, ou qu'on pouvait effectivement avoir telle astuce ou telle solution pour ses émotions, quoi, ok, ce machin, vidéo, etc. Et c'est à la fois poignant, c'est à la fois stimulant, et puis ça fait un peu la trouille quand même de temps en temps.
Pourquoi ça vous la trouille?
Parce que ça met une pression sur la précision de ce qu'on a, parce que
oui.
Ok, on est sur TikTok. Ok, on a quelque chose à dire de façon résumée et de façon simple. Mais faut pas tomber dans le spectacle. Faut pas tomber faut pas dire le mauvais mot. Il faut être exact dans ce qu'on dit et il faut avoir du fond.
D'un seul coup, tu prends une responsabilité éditoriale.
Tout à fait. Et ce qui m'a amené en fait à avoir une démarche supplémentaire, celle de me rapprocher de France Parkinson et de me rapprocher de la Pitié Salpêtrière pour acquérir de l'information.
Ah, d'accord.
Je vais avoir de l'information sur Parkinson, sur la façon d'accompagner des malades du Parkinson en tant que Parkinsonien moi-même, et je vais pouvoir aussi sous l'égide du Fonds de France Parkinson animer une fois par mois ce qu'on appelle un café Parkinson, un café jeune Parkinson. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est un groupe de parole de personnes de moins de 60 ans qui ont le Parkinson qui sont en activité ou qui sont effectivement au chômage, mais qui sont effectivement en âge d'être en activité.
Ouais.
Et donc en fait, je vais pouvoir de cette façon avoir un peu plus d'épaisseur, un peu plus de, comment dirais-je, d'informations pour pouvoir adresser.
Ah, c'est génial ça.
Mon public.
Mm-hmm.
Donc voilà. Mais encore une fois, c'est important de garder sa passion, sa foi, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est difficile d'entendre ce qu'on entend de temps en temps, et puis c'est une grosse responsabilité, quoi. C'est presque aussi gros, c'est presque plus de responsabilité que de signer une grosse affaire à 4 millions d'euros, quoi.
Ouais, puis là, tu traites avec de l'humain, hein.
Traites avec de l'humain, et c'est de l'humain, c'est de l'humain en difficulté, c'est de l'humain en demande. Mmh. Et puis il faut vraiment avoir le bon discours par rapport à, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un Parkinson, il y a différents, enfin, il faut vraiment être humble par rapport à cette maladie. C'est que, en fait, par exemple, dans mon cas, je n'ai pas de tremblement. J'ai une lenteur qui est visible, j'ai la salive qui est très présente, j'ai pas de tremblement. Et j'arrive encore à articuler, j'arrive encore à m'exprimer.
Mmh.
Ce qui n'est pas forcément le cas de gens dès le départ, quoi. Enfin bref.
Ouais.
Donc voilà, enfin bref, il faut avoir le bon discours par rapport aux gens qui ont Parkinson, parce que faut prendre tout le monde tout le monde a un stade différent, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est ça. Donc il faut avoir le bon discours avec le bon propos.
Ok. Donc ce chemin-là, alors je sais pas comment on dit ça, du coming out, mais plus généralement de prise de parole, c'est pas un chemin que tu regrettes aujourd'hui.
Alors, ce qui est certain, ce que je regrette, c'est de pas l'avoir fait plus tôt.
Ah ouais.
Parce que c'est stupide, je veux dire stupide, mais en tout cas c'est regrettable d'avoir attendu autant de temps pour m'exprimer, parce qu'en fait j'ai pas eu du temps à ne pas avoir fait, à ne pas avoir communiqué, à ne pas avoir dit les choses à mes collègues. Mais voilà, en fait, en gros, je dis que je le regrette, mais en tout cas, ce que j'apprécie, c'est que je l'ai fait, mais je regrette pas, je regrette en aucune manière d'avoir fait ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, hein, en tout cas jusqu'à maintenant.
Ah, ouais.
Mais avec la trouille au ventre d'avoir le fond qui va bien, d'avoir le mot qui va bien, et de ne pas me planter parce que je suis pas un professionnel du genre.
Ouais, mais à la base, t'es un mec intelligent, t'es un mec fondamentalement humain, donc, enfin voilà,
Et Pierre, ça suffit pas d'être humain et d'être, il faut être, c'est pour ça que j'ai dû avoir recours à la formation, parce qu'en fait, on touche à de l'humain, et l'humain demande beaucoup de tact, beaucoup plus de tact que dans les relations commerciales qu'on a pu avoir l'un l'autre, quoi.
Ouais, c'est vrai. Ouais, en même temps, si tu joues pas l'humain, tu vends pas, hein, donc.
Tout à fait. Mais enfin, tu peux, dans le commercial, tu peux fourguer, comme on dit.
Allez, au cul du camion, monsieur. Allez, c'est bien.
Non, mais par exemple, effectivement, tu peux rajouter des options, tu peux.
Ouais, mais on est d'accord, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Là, t'es dans l'échange, t'es dans la communication, effectivement, dans l'information. Avec un côté, quand même, de temps en temps, sympa, qui est, moi, je sais plus si c'est dans une de tes vidéos sur YouTube, où je te vois sur un truc, une roue, là, tu sais, comment ça s'appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle.
Oui, sur un monoroue électrique. Ça s'appelle une gyro-roue.
Un gyro-roue, voilà.
Une gyro-roue.
Où en gros, t'as l'air de te faire plaisir quand même, en disant voilà, c'est pas parce qu'on a Parkinson que on peut pas avoir ce genre de truc, et voilà, c'était fun ça.
C'est continuer à vivre. C'est le message que je voulais donner, en fait. En gros, il y a trois messages que je martèle. C'est continuer à vivre, mieux se connaître et vivre au présent. Et continuer à vivre, c'est vraiment poursuivre ses passions. Évidemment, dans la limite de ce que Parkinson peut te mettre comme barrière, en termes de vigilance, en termes de fatigue, en termes de capacité à observer, parce qu'en fait, faut être aussi vigilant. Donc, bref. Donc,
tu fais toujours des sorties en parapente d'ailleurs?
Ben là, ça va faire un an que j'en ai pas fait, mais je compte reprendre ça très très rapidement. Il y a pas de raison que je puisse pas faire de parapente alors que je fais de la roue électrique, je fais de la moto tous les jours. Quoi. Ouais. Mais voilà, ce qui est important, c'est de montrer que vivre le Parkinson, c'est aussi vivre ensemble, c'est aussi vivre dans la société, c'est aussi que à un stade donné de la maladie où j'en suis, d'autres en sont également, on est encore utile à la société, on est encore capable d'être un acteur dans la société en termes de consommateur, mais aussi en termes d'employé, en termes de valeur ajoutée, on a une place dans cette société.
Oui.
Et c'est important de le dire parce que encore une fois, mon objectif, à travers la communication que je peux avoir autour du Parkinson, sur TikTok ou sur d'autres médias, c'est d'éviter la double peine aux gens qui sont pères de famille, commerciales, dans une entreprise,
tout le monde,
par exemple.
Tout le monde, voilà. Ça. Vivre l'instant présent pleinement. Enfin voilà.
C'est vraiment important en fait. Mis à part le fait que Eckhart Tolle va dans l'aspect mystique de l'importance du moment présent, l'une des trois composantes de fondamentaux pour pouvoir mieux vivre le Parkinson, c'est effectivement vivre le présent. Et c'est un peu comme la prise de décision commerciale au moment de la négociation ou au moment d'interaction avec un client, un prospect, etc., etc. Je pense que ce qui fait la force de quelqu'un dans le moment de la négociation, c'est que il est dans le présent, il est conscient que les fantômes ou les fantasmes sont effacés.
J'aime bien cette expression. Les fantômes ou les fantasmes. Ouais.
Sont effacés. En fait, ce que j'ai appris, c'est que le mental, en fait, fait appel au passé et au fantasme. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le mental évite de penser au présent. Je fais une digression, mais enfin, bon, bref.
Tu vires philosophe un peu, ouais.
Ben, c'est philosophe pratique. Parce qu'en fait, la petite musique dans la tête qui dit d'autres ont échoué et que toi, tu vas échouer aussi parce que d'autres ont échoué, ou je gagnerai au loto parce que effectivement d'autres ont gagné au loto, ces petites pensées-là doivent être pas mises de côté, en tout cas doivent être critiques, on doit être capable de les entendre sans les endosser, en tout cas avec critique. Et donc faut pouvoir mettre ces idées ou ces fantômes ou ces fantasmes en perspective du présent, et je pense que la bonne prise de décision, que ce soit dans le cas du Parkinson, dans le cas d'un commercial qui va démarcher un prospect ou quoi au caisse, c'est d'être dans le présent. Bien sûr, c'est d'avoir une culture, c'est d'avoir une connaissance historique de la relation, certes, c'est d'avoir aussi une vue sur le futur, mais au moment de la négociation, c'est d'être au présent. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est de voir, être capable de comprendre quelles sont les actions qui vont permettre maintenant d'agir. Je sais pas si j'arrive à exprimer correctement, mais
c'est à peu près clair.
Le secret de bien vivre, c'est le secret d'être conscient du moment présent et de l'action qu'on peut entreprendre maintenant.
Yes.
Il va avoir un impact dans le futur, mais de pas se laisser polluer par les fantômes ou ne pas laisser se polluer par les fantasmes d'un côté et de l'autre qui sont pas acteurs du présent, quoi. Le seul acteur du présent, c'est ta gueule, ton être, c'est ton attitude, et c'est ce que tu vas dire face à quelqu'un qui te négocie. Donc la force, je pense, d'un commercial, ou la force de vivre, de bien vivre, c'est d'être dans ce moment présent. L'attitude, par exemple, bref, voilà. Donc c'est ce que on va pas s'éterniser là-dessus, mais oui, ça fait partie des clés. Parce qu'en fait, quand on part en dépression, quand on part dans des spirales négatives,
c'est un peu perso, mais
j'ai eu une grosse dépression parce que à un moment donné, j'étais confronté à une adversité totale dans une boîte où j'étais, et donc je partais en dépression.
Ah oui, mais c'était pas la maladie. C'est ce que je veux dire, c'était.
Bah, la maladie n'aide pas, en fait. La maladie exacerbe cette sensibilité que tu peux avoir face à l'adversité.
Ouais.
Donc tu as moins de défense. En fait, le handicap, bien sûr, se révèle à travers le tremblement, se révèle à travers la lenteur, se révèle à travers la rigidité, mais aussi se révèle dans l'aspect cognitif, dans l'affect qui est beaucoup plus sensible. Dans la capacité à mener plusieurs actions de front, par exemple, c'est des difficultés qui peuvent se présenter. Mais il y a un aspect invisible de la maladie qui peut affecter et qui peut et que moi j'ai été sensible à un moment donné et j'ai eu recours à un psychiatre. J'ai toujours recours à un psychiatre d'ailleurs qui m'épaule en ayant pris cette initiative de me concentrer sur le présent. J'arrive à enjamber en fait des situations qui auraient pu me mener vers la dépression.
Ouais.
Et quand des gens en face de toi disent qu'ils ont peur de mourir, par exemple, je leur demande s'ils sont, tu leur dis ben t'es pas encore mort là. Je prends des cas extrêmes pour dire juste la chose suivante, c'est que le problème du mental, le problème de notre mental, c'est que c'est un éternel balancier entre le futur et le présent, entre le futur et le passé. Et c'est ce mental qui nuit en fait à bien-être en quelque sorte. Donc dans le cadre du Parkinson, dans le cadre d'autres préoccupations qu'on peut avoir, il est important de se remettre dans le présent. Et je pense que voilà, enfin bref.
Non, mais c'est important. Puis le fait de ta maladie fait que ce conseil porte encore plus, si tu veux. Tu vois, enfin, citer.
Tout à fait. Sans oublier effectivement qu'il faut avoir une conscience, faut continuer à vivre, faut continuer aussi à cultiver sa propre la connaissance en soi, etc., pour pouvoir se maîtriser, se contrôler et ainsi de suite.
Pour on a fait un bon petit tour là. Pour ceux qui auraient envie, besoin de te contacter, c'est quoi les meilleurs médias?
Les meilleurs médias, c'est directement, c'est ma chaîne tiktok.com@parkfighter. C'est-à-dire que c'est Park, P-A-R-K, Fighter, F-I-G-H-T-E-R.
Ouais.
Pourquoi j'ai choisi le nom? Pourquoi j'ai choisi ce nom, je sais pas, mais en tout cas, je trouvais que c'était offensif.
Ça le mérite de l'honnêteté, ça.
C'est un peu.
C'est celui
peu
qui
Superman,
se bat.
Mais,
non, c'est celui qui se bat. Hein.
Oui, en fait, c'est se battre un peu comme contre des moulins à vent, parce que de toute façon, c'est inexorable. Mais oui, c'est surtout. Bon, il y a ce canal qui est directement Parkfighter. Parkfighter.
Ça doit être un @parkfighter sur TikTok. On trouve. Si tu fais Parkfighter sur TikTok, on te trouve. Ouais.
Exactement. Et puis, faut pas oublier non plus que il y a des grosses associations comme France Parkinson,
ouais,
qui sont aussi présentes pour répondre à toutes les questions qui se posent autour du Parkinson.
Je mettrai le lien de France Parkinson dans la description de l'épisode.
Et puis surtout, si jamais il y a des gens qui m'écoutent et qui sont dans le 92 et qui ont l'intention de, enfin, qui ont envie de participer à des groupes de parole. Sur le Parkinson, je vais organiser à partir du mois prochain en fait des groupes de parole qui s'appellent
Octobre,
dans les cafés
octobre 2021.
Sous l'égide de France Parkinson, j'ai organisé donc dans 92 une fois par mois ce qu'on appelle les cafés jeunes Parkinson,
ouais,
qui sont des groupes de parole dans lesquels j'animerai avec un psychologue qui sera donc là également pour animer le groupe de parole.
Parfait.
Et donc ce qui est important, c'est de permettre à des gens qui sont encore en activité de pouvoir s'exprimer sur leurs problèmes, de voir comment on peut partager avec d'autres des expériences et des témoignages.
Alors Jean-Claude, tu vas pas y échapper, parce que on y arrive, ça y est, c'est les 7 dernières questions de la colle de Jean-Claude Bénard. Alors Jean-Claude, dis-moi, quel est ton mot préféré?
Je pense que je me suis un peu trahi au départ. C'est mon mot préféré est un verbe qui est jouir, pour tout ce qu'on a pu se dire.
Non, je te laisse pédaler dans la choucroute tout seul là.
Non, parce que jouir physiquement de ce qu'on fait, de ce qu'on sent, de ce qu'on dit aux autres, de ce qu'on peut recevoir des autres.
Ouais.
Et je trouve que c'est un mot pivot entre ce qui peut être néandertalien chez nous, quoi, et ce qui peut être futuristique aussi dans notre relation, quoi. Enfin, bref.
Ok, je prends. Le mot que tu détestes.
Bah, c'est anticonstitutionnellement. c'est très difficile à dire.
Ok. Le son ou le bruit que tu aimes.
Alors, c'est tout autour du parapente. En fait, c'est le bruit du vent dans les suspentes de la voile.
Ah.
Et c'est un son qui est omniprésent tout au long du vol en parapente.
Ouais.
Et ça fait un bien fou.
je veux bien croire. Le son ou le bruit que tu détestes.
Marteau piqueur.
Ouais, classique.
Très banalement. Mmh. Parce que c'est discontinu et ça fait mal.
Ton juron, gros mot ou blasphème favori?
Bon, c'est pas trop original, je veux dire, mais c'est bordel de merde.
Ouais, c'est un bon classique. C'est un bon classique. La citation que tu aurais aimé prononcer?
Il y en a plusieurs, mais en fait, c'est celle de Mandela.
Ouais.
Qui dit que tout semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le réalise.
Ouais.
Jusqu'à ce qu'on le réalise.
Joli. Si tu devais l'appliquer à quelque chose aujourd'hui pour toi, ce serait quoi?
Ben, en fait, j'aurais jamais imaginé, il y a 6 mois de ça, en être au point d'avoir plus de 20 vidéos sur TikTok.
Ouais, ouais.
Près de 2000 abonnés.
Mm-hmm.
Enregistrer un podcast, avoir l'ambition d'animer un groupe de parole sur le Parkinson.
Ouais.
Je suis un tout petit nain face à la pyramide, quoi. Là. Franchement,
ouais,
je me dis que bon, c'est possible.
il suffit de rêver et de le faire.
Il suffit d'avoir l'envie et d'avoir les moyens de ses envies, c'est-à-dire en fait en gros vivre l'instant et se mettre les moyens de vivre cet instant. Enfin,
si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire?
Bon travail, vas-y, retourne.
Ah ouais, on remet le couvert.
On remet le couvert, oui. Et je ne changerai rien à ce que j'ai fait, ou ce que j'ai pu vivre, y compris le Parkinson.
Ok. Ah, pourquoi?
Parce que j'ai vécu à plein tout ce que j'ai pu vivre.
Mmh.
Et que si j'avais, en fait, je disais en riant à ma compagne l'autre jour que c'est quand même une chance que j'ai le Parkinson parce que sans ça j'aurais jamais pu connaître TikTok. Et
c'est vrai que ça aurait manqué à ta vie, ça, cette affaire.
Ça aurait manqué à ma vie. Mais surtout, si tu voyais les moyens, donc je me suis mis à disposition en termes de vidéos, en termes de sons, en termes de process, parce que j'utilise. Pour pouvoir faire une vidéo par jour, t'as intérêt à avoir de l'ordre dans tes idées, de pouvoir faire une short list,
mm-hmm.
documenter chaque thème, etc., etc. Donc, en fait, j'aurais jamais pu mettre mon nez dans ce gouffre de savoir, si j'avais pas eu Parkinson.
Ouais,
donc, voilà.
Ça crée des opportunités aussi. Voilà.
Ça crée des avenues, pour soi, quoi, ça crée de nouvelles opportunités, effectivement, pour de connaissances.
Bah écoute, Jean-Claude, je te remercie beaucoup pour ces instants de partage. C'est inspirant. C'est inspirant. J'espère que ceux qui nous écoutent, et moi le premier d'ailleurs, en savent un petit peu plus maintenant sur Parkinson. Et donc, aussi porteront un regard différent sur ça. Je sais que dans nos auditeurs, il y a plein de gens qui font partie de nos réseaux, qui te connaissent. Donc voilà, ça vaut le coup de passer un coup de fil à Jean-Claude et aller boire un coup avec lui. Donc vraiment merci pour ça. Et puis Ben, je mettrai tous les liens vers ton compte TikTok, vers France Parkinson, etc. Donc, un grand merci, Jean-Claude, vraiment.
Merci à toi, Pierre. Merci pour ton humanité et ta gentillesse. Je te remercie.
Ouais, mais c'est tout moi, ça. C'est tout moi. Allez, merci, hasta la vista, Jean-Claude.
Merci.
Ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.